Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition spéciale consacrée en ce vendredi 8 janvier 2021 aux émeutes qui ont secoué Washington mercredi et les conséquences qui en ont résulté. Bonjour, on commence par l'actualité dans le reste du monde. Centrafrique, le pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, réélu au terme d'une élection contestée, a annoncé jeudi un couvre-feu dans le pays occupé aux deux tiers par des groupes armés et en proie à une offensive rebelle. Une coalition des six plus puissants de ces mouvements avait lancé une offensive 10 jours avant le scrutin du 27 décembre et seul un électeur inscrit sur deux avait finalement pu avoir la possibilité de se rendre aux urnes en raison de l'insécurité. Mais la progression des rebelles est pour l'heure ralentie, voire bloquée relativement loin de Bangui par les forces loyalistes, les casques bleus et surtout d'imposants renforts de combattants russes et rwandais. Les autorités maliennes et françaises ont assuré à l'unisson jeudi qu'une frappe menée dimanche par l'aviation française au Mali avait touché uniquement des djihadistes. À l'opposé, des villageois ont rapporté des victimes civiles au même moment dans le même secteur. Niger, le nombre de victimes de l'attaque de samedi dernier est vu à la hausse. Ce sont maintenant 105 civils qui ont été tués dans l'ouest du pays dans l'attaque djihadiste la plus meurtrière depuis le début du conflit au Sahel en 2012, selon donc un nouveau bilan donné jeudi par le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Les Libériens sont allés voter jeudi dans l'un des deux comtés qui retardent la proclamation des résultats d'un référendum et de sénatorial ayant eu lieu le 8 décembre ailleurs dans le pays. Des violences avaient éclaté le 8 décembre dans le comté de Gbarkolou, poussant les agents électoraux à fuir les autorités à repousser le vote. Les autorités sénégalaises, elles, ont décidé d'imposer le port du masque dans la rue, dans tout le pays, pendant 3 mois, parmi de nouvelles mesures rigoureuses face à une progression du COVID-19 qui alarme le gouvernement. Le port du masque sera obligatoire sur la voie publique, dans les administrations, les commerces, les transports en commun et les véhicules transportant au moins 2 personnes, stipule un arrêté du ministère sénégalais de l'Intérieur publié jeudi. Les autorités ont déjà remis en vigueur un couvre-feu nocturne depuis mercredi. Dans les régions de Dakar et Thiès, il a suscité de premiers incidents dans la capitale Dakar. Le chanteur ougandais Bobi Wine, principal adversaire déclaré du sortant Yoweri Museveni en Ouganda à la présidentielle du 14 janvier, a affirmé jeudi qu'il allait demander à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des meurtres, actes de torture et autres abus commis dans le pays. L'opposant Robert Kyagulani, de son vrai nom, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine et souvent très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Museveni. Il a été arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. L'Algérie attend des États-Unis l'impartialité sur la scène régionale et internationale, a affirmé jeudi le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum en recevant une délégation américaine de haut rang. Le secrétaire d'État américain adjoint pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, David Schenker, a évoqué avec les responsables à Alger la question du Sahara occidental et les conflits en Libye et au Sahel. Le personnel électoral d'Haïti nommé Le Conseil électoral provisoire d'Haïti, nommé unilatéralement par le très critiqué président Jovenel Moïse, a annoncé jeudi la tenue d'ici la fin de l'année d'un référendum constitutionnel et de scrutins présidentiels législatifs et locaux, alors que l'insécurité liée aux gangrène le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, effectuera à partir de dimanche une visite virtuelle à Londres, sa première visite d'un pays sous un tel format depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, a annoncé jeudi son porte-parole. Le programme du chef de l'ONU prévoit sa participation dimanche à un événement marquant le 75e anniversaire de la première session de l'Assemblée générale de l'organisation qui s'était tenue au Central Hall de Westminster. Et Boeing a officiellement accusé jeudi d'avoir induit les autorités en erreur lors du processus d'approbation du 737 MAX. MAX a reconnu sa responsabilité et a accepté de verser plus de 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites. Dans un instant, le spécial Amérique.
Bienvenue dans cette édition spéciale du 8 janvier 2021 sur les États-Unis. Le chef de la police du Capitole, Stephen Sand, a présenté sa démission au lendemain de l'assaut de milliers de partisans du président Donald Trump contre le Congrès. Il quittera ses fonctions à compter du 16 janvier. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait demandé la démission de M. Sand, dont les services ont été vertement critiqués pour leur manque de préparation. Mme Pelosi a aussi affirmé hier qu'écarter Donald Trump du pouvoir est une urgence de la plus haute importance. Elle l'accuse avec ses partisans d'avoir participé à une tentative de coup d'État. Le point avec Michel Joseph.
Nancy Pelosi a exhorté le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour déclarer Donald Trump inapte à gouverner. La présidente de la Chambre a ajouté que s'il n'agit pas, le Congrès pourrait être prêt à avancer vers une procédure de destitution dénonçant une tentative de coup d'État. Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, avait déjà exhorté le vice-président Mike Pence à aller dans le même sens. Selon lui, le 25e amendement de la Constitution autorise le vice-président et une majorité de membres du cabinet à déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Le sénateur républicain Lindsey Graham, un proche allié de Trump, a pris ses distances, disant que trop, c'est trop. Elaine Chao, épouse de Mitch McConnell et ministre des Transports, a annoncé sa démission. La facilité avec laquelle les services de sécurité ont été débordés est un échec massif, a estimé pour sa part Mitch McConnell, chef des Républicains au Sénat, qui a annoncé une enquête. La maire de Washington DC, Muriel Bowser, a souligné qu'elle n'avait pas l'autorité d'envoyer l'armée, la police ou la garde nationale dans l'enceinte du Congrès, qui est un bâtiment fédéral. Elle a prolongé pour 15 jours l'état d'urgence, soit jusqu'à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier sur les marches du Capitole.
Le vice-président américain Mike Pence s'est opposé au recours à l'article 25 de la Constitution afin d'écarter Donald Trump du pouvoir, rapporte jeudi le Business Insider et le New York Times. Plusieurs élus démocrates et républicains ont réclamé jeudi le recours à l'article 25 de la Constitution américaine afin d'écarter Donald Trump du pouvoir au lendemain des scènes d'insurrection observées à Washington et à moins de 3 semaines de la fin de son mandat. Et Donald Trump est réapparu jeudi soir. Le président américain a assuré vouloir une transition du pouvoir sans accroc et a appelé à la réconciliation au lendemain de violences perpétrées par ses partisans au Capitole. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated. Le Congrès a certifié les résultats de l'élection présidentielle. Une nouvelle administration prêtera serment le 20 janvier, a-t-il fait valoir dans ce message qui marque un changement de ton très net par rapport à la veille. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition. Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans jamais mentionner le nom de son successeur Joe Biden. Le président sortant Donald Trump s'est par ailleurs dit scandalisé par la violence, l'anarchie et la pagaille perpétrées par ses sympathisants au Capitole mercredi.
To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country.
À ceux qui ont commis des actes de violence ou de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez, a-t-il assuré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Le président élu Joe Biden, pour sa part, a accusé directement son futur prédécesseur. Donald Trump est responsable des violences survenues mercredi soir au Capitole et a sapé les fondements de la démocratie en essayant d'utiliser la foule pour réduire les électeurs au silence, a déclaré jeudi Joe Biden, qui lui succédera le 20 janvier à la Maison-Blanche. Cette journée qui a vu les partisans du président sortant pénétrer de force dans le bâtiment, alors que les élus étaient en train de certifier le résultat de l'élection présidentielle, a été l'une des plus sombres de l'histoire des États-Unis, a-t-il estimé. Ne les appelez pas manifestants, c'était une foule d'émeutiers, des insurgés, des terroristes intérieurs. C'est aussi simple que ça, a déclaré le futur président. Les membres du Congrès américain ont finalement confirmé la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, tôt jeudi matin. Ils ont repris tard dans la soirée de mercredi le dépouillement des votes du collège électoral. Les législateurs démocrates et républicains se sont montrés déterminés quelques heures après que des milliers de partisans du président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Un reportage de Patsy Widakuswara avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Malgré l'invasion du Congrès par des milliers de partisans de Donald Trump, les législateurs sont retournés au travail mercredi soir pour compter et certifier les votes des collèges électoraux. Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat.
Nous allons certifier le vainqueur de la présidentielle de 2020.
Le vice-président Mike Pence, en sa qualité de président du Sénat, a convoqué à nouveau la session conjointe du Congrès quelques heures après l'évacuation du bâtiment assiégé.
Aujourd'hui était un jour sombre dans l'histoire du Capitole des États-Unis, mais grâce aux efforts rapides de la police du Capitole, des forces de l'ordre fédéral, étatique et local, la situation a été contrôlée.
Plus d'une centaine de membres de la Chambre et 14 sénateurs, tous républicains, avaient initialement prévu de bloquer la certification des votes dans 6 États remportés par Joe Biden. Le sénateur républicain Josh Hawley.
Pour ceux qui s'inquiètent de l'intégrité de nos élections, ceux qui s'inquiètent de ce qui s'est passé en novembre, c'est le moyen approprié.
Mais plusieurs d'entre eux ont changé d'avis suite aux violences d'hier. La sénatrice républicaine Kelly Loeffler.
Les événements qui se sont produits aujourd'hui m'ont obligée à reconsidérer. Je ne peux pas maintenant, en bonne conscience, m'opposer à l'accréditation de ces électeurs.
De Wilmington, Biden a condamné la violence et sévèrement critiqué Trump.
I call on President Trump.
J'appelle le président Trump à aller à la télévision nationale maintenant. Pour remplir son serment, défendre la Constitution et exiger la fin de ce siège.
Le président Trump a tweeté une vidéo appelant au calme, mais a maintenu ses accusations de fraude.
C'était une victoire écrasante et tout le monde le sait, en particulier l'autre camp. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant.
Twitter et Facebook ont pour la première fois bloqué les comptes de Trump.
C'était une scène apocalyptique que les Américains n'ont jamais vue dans leur propre pays. Des manifestants en colère ont envahi le Capitole, le Parlement américain, un grand symbole de la démocratie. Selon le chef de la police de Washington, 4 personnes ont été tuées, dont une femme. Un reportage de Michel Quinn, le récit est de Lionel Gaïma.
C'était comme un cauchemar avec des scènes inimaginables. Une parlementaire américaine accroupie et priant derrière une chaise à l'intérieur du temple de la démocratie américaine. Des policiers brandissant des armes à feu au sein du Capitole. Des vitres brisées et des manifestants escalant les murs pour aller saccager les bureaux des élus. C'est du jamais vu aux États-Unis. Les images ont tourné en boucle dans toutes les télévisions du monde et sur les réseaux sociaux. Cela a commencé par une manifestation pacifique mercredi à l'appel du président Donald Trump pour contester les résultats de la présidentielle. À quelques encablures, une session conjointe du Congrès devait commencer le processus de certification des résultats.
Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais, ça n'arrive pas. Vous ne concédez pas face à un vol.
Trump a suggéré ses partisans de marcher vers le Capitole. Alors que la foule s'approchait du bâtiment, elle s'est heurtée à la police. Après quelques échauffourées, les manifestants ont pénétré de force dans le bâtiment et les législateurs ont dû se cacher. Voir des manifestants dans les villes américaines n'est pas rare. L'été dernier, des manifs se sont parfois transformés en batailles rangées avec des destructions. Mais ce qui s'est passé mercredi à Washington DC est bien différent. Liam Donovan, stratège républicain.
Ce qui n'a jamais été vu, c'est que des individus prennent d'assaut le Capitole, brisent des fenêtres, fassent irruption dans des bureaux. C'est choquant à voir.
À la tombée de la nuit, la ville de Washington et l'État de Virginie voisine ont été obligés d'imposer un couvre-feu nocturne. Une nation choquée s'efforce de comprendre ce qui a pu conduire à ce moment sans précédent. Jennifer Masieka est professeure agrégée à Texas A&M.
Nous ne savons pas comment ça va se terminer. En regardant le chaos à Washington DC en ce moment, il est difficile de savoir qui est vraiment en charge.
Le Congrès, théâtre de tant d'événements historiques, a pu reprendre sa session dans la soirée. Plusieurs sénateurs républicains qui envisageaient d'élever les objections
ont dû abandonner leur projet. Le vice-président Mike Pence, qui présidait la séance, a dit clairement « Vous n'avez pas gagné, on ne gagne jamais avec la violence ». Joe Biden est maintenant déclaré officiellement vainqueur de la présidentielle et doit prêter serment le 20 janvier.
Après l'intrusion de force mercredi de centaines de partisans de Donald Trump dans le Capitole, les agents de sécurité ont dû empiler des meubles contre la porte de la salle et sortir leurs armes afin de permettre aux représentants et à d'autres personnes de s'échapper. Cet assaut suscite des questionnements sur la sécurité d'une telle institution. Eric Manirakiza a joint ici à Washington le journaliste indépendant Émile Baroudi.
L'entrée au Capitole est très strictement contrôlée par la force de police du Capitole. Le Capitole a une force de police qui lui est propre et ce sont des policiers qui s'occupent de la sécurité du bâtiment lui-même, des bâtiments dirais-je, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, il y a les bureaux des sénateurs et des représentants et tout. L'accès est très strictement contrôlé du point de vue sécuritaire. Il y a des portails électroniques, on se fait fouiller. Mais il y a une chose que les Américains aussi aiment beaucoup, profiter du premier amendement de la Constitution qui garantit le droit d'expression, qui fait que pour la police du Capitole, ces gens-là n'étaient pas illégalement présents dans le bâtiment, ils étaient légalement là-bas, ils avaient le droit d'être là-bas, ils ont le droit de manifester. Donc est-ce que c'était une bavure comme il peut en arriver? Est-ce que quelqu'un en a profité pour, au contraire, les laisser rentrer et faire tous ces dégâts pour discréditer leur ligne politique et le président? Ce n'est pas encore très clair.
Le journaliste indépendant Émile Baroudi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat américain et de la Chambre des représentants après avoir remporté 2 victoires lors du second tour des sénatoriales partielles en Géorgie. Depuis Atlanta, Catherine Gibson de la VOA revient sur les conséquences de cette course pour la présidence de Joe Biden. Le récit est de John Lindon.
Les électeurs de Géorgie ont donné le contrôle du Sénat américain aux démocrates. Avec la défaite de la candidate républicaine Kelly Loeffler, le démocrate Raphaël Warnock deviendra le premier sénateur noir de l'État de Géorgie.
Le voyage improbable qui m'a conduit à cet endroit en ce moment historique en Amérique ne pouvait se produire qu'ici.
Et l'autre candidat démocrate, John Ossoff, a battu le sénateur républicain David Perdue.
Let's unite now.
Unissons-nous maintenant pour vaincre ce virus et accélérer les aides économiques au peuple de notre État et au peuple américain.
Cet État du Sud est traditionnellement républicain a connu un taux de participation sans précédent au second tour de cette élection. Les allégations de fraude électorale du président Trump dans cet État pourraient être l'un des facteurs qui ont contribué à ces changements.
Vous ne concédez pas en cas de vol.
De nombreux partisans du président sont venus voter ici en Géorgie en disant que l'élection était trop importante pour être ratée. Mark Hayes, partisan de Trump.
Nous n'avons pas obtenu notre liberté en laissant d'autres personnes entrer et diriger ce pays comme les démocrates veulent le faire.
Les affirmations du président semblent avoir diminué la participation républicaine, selon les analystes. Hank Edmondson, professeur à Georgia College.
Le président a semé une grande confusion dans l'État avec ses accusations de processus frauduleux ici. Et il y a eu une crainte parmi les républicains pendant un certain temps que cela pourrait affaiblir le taux de participation des républicains.
La vice-présidente élue Kamala Harris aura le vote décisif dans un Sénat dirigé par le futur leader de la majorité, Chuck Schumer.
Nous allons relancer l'Amérique.
Cela marque un changement crucial pour le président élu Biden, ouvrant des opportunités de partenariat avec le Congrès pour adopter son agenda au cours de ses 2 premières années de mandat. Fred Hicks, stratège politique.
Le leader de la majorité au Sénat est vraiment la personne la plus importante au Congrès. Rien ne va de l'avant sans le leader de la majorité au Sénat. Et nous l'avons vu avec Mitch McConnell.
Le président élu Joe Biden entrera en fonction soutenu par des majorités démocrates à la Chambre et au Sénat. C'est la première fois que le parti va contrôler les 2 chambres depuis le premier mandat de Barack Obama.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, édition spéciale États-Unis. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. Les événements de mercredi ici à Washington, au Capitole, ne sont pas vraiment une surprise, selon l'analyste politique Aristide Sidibé. Joint à Houston, dans le Texas, par Bagassi Koura, il explique que depuis plusieurs mois, tout laissait entrevoir une telle éventualité.
Moi, je ne t'ai pas surpris, pour vous dire la vérité, parce que si vous regardez la manière dont le président Trump a pris le pouvoir aux États-Unis et sa relation avec son parti politique, et il est arrivé à un moment donné où le fait que l'élection ne s'est pas passée comme il le veut, il n'a pas gagné. Il a dit ça depuis longtemps qu'il ne va pas reconnaître les résultats. Il a dit que il a été triché. Et la politique, c'est un sport de contact. Et ses partisans ne veulent pas reconnaître la légitimité que le nouveau président, Joe Biden, a été élu légitimement. Donc ça, c'est la conséquence directe de ce qui se passe. Et du fait que aussi, au sein de son parti, il y a des gens qui sont prêtés à ce jeu.
À votre avis, quel peut être l'effet sur la démocratie américaine?
Pour moi, ça, c'est la question la plus importante. Donc moi, je vois deux conséquences. Une conséquence interne et une conséquence externe. La conséquence par rapport à la politique intérieure des États-Unis, c'est que, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a des politiciens au sein du parti de M. Trump qui veulent émuler ce qu'il a fait. Ils pensent que c'est le modèle pour être président. Et l'État dans lequel moi je vis, le Texas, l'un de nos sénateurs Ted Cruz, est dans cette logique. Okay? Donc, la question qu'on doit se poser, c'est que s'il n'y a pas un prix à ce genre de comportement, d'autres politiciens vont le faire. Ils vont penser que c'est la manière pour accéder au pouvoir. Maintenant, la conséquence externe, c'est que l'Amérique ne peut plus se permettre de donner des leçons au reste du monde en ce qui concerne la démocratie, pour dire aux autres, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Donc pour moi, ça, c'est les deux conséquences.
Donc il va être difficile, par exemple, d'accompagner ou de réagir à des processus électoraux en Afrique?
Absolument. Et je prends l'exemple de mon pays d'origine, qui est le Mali. Est-ce que l'Amérique aujourd'hui peut dire aux autorités transitoires au Mali, vous devez vous comporter comme ça? Moi, je me pose la question. Ce sera difficile. Donc, si l'Amérique perd cela, ça va être difficile pour l'Amérique de se positionner pour être l'exemple de démocratie au monde.
L'analyse politique, Aristide Sidibé. Les réactions maintenant sur le continent. L'assaut du Congrès américain par des manifestants pro-Trump en colère a retenti jusqu'en Afrique, où l'on ne pouvait imaginer un tel chaos dans une démocratie exemplaire. En Guinée, les événements du Capitole, ici aux États-Unis, sont suivis et commentés par des Guinéens. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a rencontré certains parmi eux qui appellent la justice américaine à prendre des sanctions.
La plupart des Guinéens interrogés à Conakry se disent surpris du coup que vient de prendre la démocratie américaine.
Si nous assistons à ce genre de comportement aux États-Unis, et quelque part, nous nous demandons quelle est la leçon que éventuellement ou ultérieurement les États-Unis pourraient donner aux Africains. En Afrique, nous voyons tout. Mais si maintenant les Américains eux-mêmes versent dans ce genre de comportement, je pense que c'est une bassesse et c'est un coup dur pour la démocratie en général.
Les Américains se sont rendus dans les urnes pour choisir librement leur président, et que le président sortant n'arrive pas à reconnaître sa défaite. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Et dans un pays considéré comme le point de départ de la démocratie.
Le Capitole envahi et vandalisé par des pro-Trump, pour ce jeune Guinéen, c'est la conséquence des discours va-t-en-guerre de Donald Trump.
Avec le président Donald Trump, au regard de ses nombreuses déclarations, des discours d'incitation à la violence qu'il a toujours tenu à l'égard de ses opposants, à l'égard de la Chine, à l'égard des partenaires commerciaux qu'il a toujours rejetés, eh bien, il fallait s'attendre à cette insurrection que lui-même il a appelée au niveau du Capitole.
Indigné, cet autre Guinéen s'adresse, lui, à la justice américaine.
Je pense que ce monsieur, pour réparer le tort fait
à l'Amérique et au monde, parce que la démocratie américaine est une référence. Pour réparer ça, il mérite une condamnation qui aboutirait à une interdiction à vie de se présenter à n'importe quelle élection aux États-Unis.
L'élection de Joe Biden a été certifiée, mais des images des manifestations au Capitole resteront à jamais gravées dans la mémoire. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Cameroun, le journaliste Idriss Ling Njoya Ahmed de l'agence ECOFIN s'est intéressé à l'aspect économique de la question. Il répond aux questions de Yacouba Ouedraogo.
Il est évident que, en tant que journaliste financier, je me suis davantage penché sur l'impact que cette actualité pouvait avoir sur la bourse de New York et par conséquent sur les bourses d'autres pays et voir comment est-ce que cela peut avoir plombé l'investissement, mais pas vraiment sur le plan politique. Cela dit, on est quand même resté pas très surpris parce que nous suivons l'économie américaine. Si le S&P 500 a évolué de près de 37% en 2020, beaucoup d'Américains sont laissés sur le carreau, l'économie peine à remonter et beaucoup de personnes souffrent encore du chômage. Et c'était pour nous pas une très grande surprise, mais l'aboutissement qui pouvait être logique.
Les États-Unis sont souvent présentés comme un pays de démocratie où les lois sont respectées. Est-ce que vous pensez qu'avec l'invasion du Capitole par les manifestants pro-Trump, ce regard-là va changer sur les États-Unis?
En réalité, le monde est constamment en quête de modèles. Ils sont en train de chercher des gens qui peuvent servir d'exemple. Je pense que le fait que l'Amérique soit aujourd'hui dans une fragilité dans son processus démocratique ne devrait pas faire oublier qu'ils ont tiré ce processus pendant de très longues années vers des idéaux qui pouvaient être ceux qui sont partagés par tout le monde. L'Amérique, ce qui est intéressant désormais, c'est de voir comment elle va se relever de cette fragilité. Et peut-être que ce sera une leçon pour les démocraties, que la démocratie n'est pas un truc parfait, mais que c'est un processus qui doit être constamment mis en cause et évalué afin d'être optimal.
Les Américains sont considérés comme les gendarmes du monde, les donneurs de leçons en matière de démocratie notamment. Ça ne sera plus le cas?
Alors, je pense que les Américains n'ont jamais été vraiment les gendarmes du monde parce qu'ils souhaitaient que le monde soit pacifié et démocratique. Les Américains ont été les gendarmes du monde parce qu'ils pensaient que si tout le monde avait la même structuration institutionnelle, cela permettrait qu'on puisse avoir un capitalisme plus productif. Je crois que de plus en plus, ils sont en train de perdre ce pouvoir-là, pas seulement pour le plan politique, mais aussi sur le plan des politiques économiques. Donc du coup, non, l'Amérique n'est plus vraiment le gendarme du monde. Et on l'a vu avec Trump durant ses 4 années de mandat.
On entend souvent des dirigeants sur le continent africain, j'en mémoire le président Alassane Ouattara, parler d'une démocratie à l'africaine qui serait différente de celle qui se pratique ailleurs dans le monde, notamment en Occident. Pensez-vous que cette scène du Capitole va les conforter dans leur position?
Oui, je pense qu'il y aura une certaine opportunité à dire que voyez ce qui se passe au Capitole, pourquoi est-ce qu'on doit se gêner en Afrique? Mais ce serait un tort. Je pense que la démocratie est un principe universel, c'est un principe de pensée internationale. Il faudrait qu'on reste convaincu que les peuples doivent avoir le droit à la contestation, y compris par des méthodes parfois extrêmement exagérées, et qu'ils ont aussi le droit à la participation aux affaires publiques. Donc on ne doit pas trouver cela comme prétexte pour se gêner. La démocratie reste une conquête et on doit pouvoir en permanence, tout comme la liberté, tout comme le libre arbitre, chercher à acquérir cette conquête-là de façon permanente.
Idriss Ling Njoya Ahmed de l'agence ECOFIN, joint à Yaoundé. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.